Deuxième partie. Chapitre 1er. Don Martin Ladron de Guevara, père de Fernando, dont le lecteur connaît déjà la grande fortune et l'ancienne noblesse, était un de ces gentilshommes campagnards, tellement attachés à leur maison et à leur terre qu'ils semblent, pour ainsi dire, en faire partie intégrante. Ils s'occupent à peu près uniquement de leurs chevaux, de leurs taureaux, de leur agriculture et de tous les commérages d'alentour. Éprouvent-ils le besoin de se créer une occupation plus attrayante sous prétexte de défendre l'intégrité de leurs droits? Ils dépensent des sommes énormes dans des procès souvent ridicules et qu'ils se soucient, du reste, fort peu de gagner ou de perdre. Don Martin, comme la plupart des aînés de grandes familles en Andalousie, n'avait, pour ainsi dire, que l'éducation religieuse. La science étant, dans quelques maisons, considérée comme inutile à celui qui doit posséder un jour la fortune. Il n'avait donc jamais ouvert un livre, mais cela ne l'empêchait pourtant pas d'être instinctivement et traditionnellement chevaleresque dans ses idées, spirituel dans ses discours, gracieux dans ses manières, usant surtout des privilèges qui lui donnaient dans son pays son rang et son âge, pour dire tout ce qui lui passait par la tête. Don Martin, en homme sûr d'avance d'être écouté avec respect et déférence, parlait toujours haut et vite. Vis-à-vis de tous, grands ou petits, son langage était le même, simple, naturel, mais plein d'assurance. Il avait dans sa tête un recueil inépuisable de bons mots et de proverbes qu'il employait à tout propos et que, suivant l'expression consacrée en Espagne, il appelait de petits évangiles. Aussi charitable que religieux, aussi généreux que noble, Don Martin donnait à pleine main, mais sans ostentation. Il attachait si peu de prix à ses largesses, il oubliait si complètement ses bienfaits qu'il s'offusquait de les entendre rappeler. La charité était pour lui non seulement une vertu, mais un devoir. Voici, entre autres, un des traits de sa générosité. En 1804, année tristement célèbre par une affreuse famine, les pauvres mouraient de faim. Les grains et les semences étaient à des prix fabuleux. Par un heureux privilège, les greniers de Don Martin n'en étaient pas moins remplis d'une abondante récolte. Chaque jour, il faisait distribuer aux pauvres, devant lui, une grande quantité de garbanzos, principale nourriture très usitée en Espagne. Tout enfant qui se présentait en recevait un quart de livre, chaque femme deux et les hommes trois. Un matin, le régisseur vint réveiller Don Martin et lui dire « Seigneur, des muletiers de ces villes viennent vous acheter vos pois chiches. Ils sont pressés. »« Pressés, dis-tu, c'est bien. Dis-leur que je me lèverai à mon heure, j'irai à la messe, je déjeunerai, et puis, vers 9 heures, ils pourront me parler. » Là-dessus, Don Martin se rendormit. Plus tard, après avoir rempli ses devoirs habituels, il descendit dans la cour où l'attendaient les muletiers et ses pauvres. « Bonjour, caballeros, » dit-il de sa grosse voix en s'adressant au premier. « Vous voulez donc acheter mes pois chiches ?»« Oui, seigneur Don Martin, et nous serons toujours d'accord pour le prix, nous apportons de l'argent et même de l'or pour vous payer. » « Ils valent bien leur pesant d'or, » dit le régisseur, témoin Don Alonso Prieto, qui a vendu le sac 600 réaux. « Nous le savons, » dirent les muletiers, « aussi le seigneur Don Martin est sûr de faire une bonne affaire. »« Eh bien, seigneurs, » leur dit-il, « je suis bien fâché de vous dire que vous avez fait un voyage inutile, les pois chiches n'étant pas à moi, je ne puis vous les vendre. »« Comment donc, monsieur plaisante peut-être ?» « Du tout, ils ne sont pas à moi. Je dois le savoir, parbleu. »« À qui sont-ils donc ?»« À ceux que vous voyez là, » répondit Don Martin en désignant les pauvres. « Eh bien, mes enfants, leur cria-t-il, faut-il vendre les pois chiches ?» Un cri plaintif de détresse s'éleva vers le ciel. « Mais, monsieur, » insistèrent les muletiers, « puisque les propriétaires refusent de vendre, je n'y suis pour rien, vous le voyez. » répondit Don Martin. Combien de traits semblables passent inaperçus au fond de l'Espagne et pourraient, si on les découvrait, consoler les gens de bien et en même temps confondre la malveillance de tous ceux qui s'obstinent à juger ce pays sur de fausses apparences. Toutes les fois que Don Martin allait à ces villes, il en revenait choqué de tout ce qu'il avait vu et s'écriait « Quel enfer ! On n'y apprécie que ce qui brille. Combien je préfère mon pauvre village !» Il va sans dire que Don Martin éprouvait pour toute innovation l'aversion la plus grande, comme pour tout ce qui ne portait pas le cachet national. Aussi, rien n'avait jamais changé chez lui. Sa manière de voir et de vivre, son genre d'agriculture, sa mise même, étaient toujours restés les mêmes. Il portait des bas de soie bleue, des souliers de feutre à boucles d'argent, des culottes de cachemire noir, un grand gilet de soie, une ample veste de même étoffe avec des basques et une résille qui retenait ses cheveux. Le matin, il sortait avec un manteau de beau drap noir garni de passementeries et franges de soie. Le soir, avec une cape d'écarlate doublée en satin de couleur et un chapeau gris à large bord, semblable à celui que les picadors portent dans les courses de taureaux. Bien que Don Martin eût atteint sa 70e année et pris un peu d'embonpoint, il conservait encore des traces d'un beau physique. Il était grand, bien fait, et ses traits, quoique gros, étaient cependant réguliers. Déjà veuf, il avait contracté un second mariage de convenance. Il montrait pour sa femme la plus grande déférence et la rendait très heureuse. « Honorer sa femme, c'est s'honorer soi-même, disait-il souvent, car le respect que nous lui portons rejaillit sur nous-mêmes. » Le jour de l'arrivée de sa nouvelle femme, Don Martin fit ranger dans la cour ses domestiques et, prenant Madame de Guevara par la main, il a leur présente intention raisonnée. Doña Brigida de Mendoza, sa femme, que Don Martin appelait toujours la Seigneur, était une de ces natures réservées, austères, impassibles, qui, malheureusement, ont le défaut de ne pas savoir rendre la vertu aimable. Tout entière à la douleur que lui causait la perte successive de tous ses enfants et aux soins continuels de la concentrer en elle-même, Madame de Guevara avait fait de son cœur une sorte de sanctuaire où elle enfouissait stoïquement ses peines et ses joies. Mélange de froideur et de gravité, ce caractère n'en était pas moins plein de dignité et de noblesse, et surtout de cet esprit de détachement, venant non pas de l'égoïsme misanthrope, mais de la supériorité réelle que donne la religion à une âme chrétienne. Don Martin avait avec lui un de ses frères, archiprêtre de l'église collégiale de Villa Maria. C'était un de ces êtres privilégiés, chez qui l'âme, le cœur et l'esprit sont également élevés, un de ces hommes à qui le monde donne le nom de savant, les malheureux celui de père et la religion celui de saint. Envoyé dans sa jeunesse à Séville pour faire son droit, à l'époque de la guerre de l'indépendance, il quitta les livres pour prendre un fusil, mais ayant été fait prisonnier et conduit en France, il profita de ce loisir forcé pour reprendre ses études interrompues. La guerre finie, il visita l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et resta longtemps à Rome. Étendant chaque jour le cercle de ses connaissances dans diverses branches du savoir, il devint un homme éminent par son talent et ses vertus. La longue expérience qu'il avait acquise des hommes et des choses, la douceur de son caractère, l'élévation de son âme et sa profonde piété déterminèrent plus tard en lui sa vocation pour le sacerdoce, vocation accueillie avec bonheur par son frère qui l'attira chez lui. Depuis lors, le bon abbé, entouré de ses livres et de ses pauvres, menait une vie paisible, partagée entre les douces méditations du savant et les austères vertus de l'anachorète. Depuis la mort de son dernier fils, Don Martin avait appelé auprès de lui, pour l'aider à diriger son agriculture, un de ses neveux qui devait être un jour son héritier. Paul de Guevara était un jeune homme de 22 ans, peu favorisé de la nature. Il avait le teint brun, les traits prononcés, les manières communes. Mais il tenait de la belle race andalouse, de grands yeux noirs, des dents petites et blanches. Ayant toujours demeuré à la campagne, il était fort timide, très gauche et peu instruit, mais en revanche, aussi habile à dresser les chevaux qu'un écuyer, aussi adroit à terrasser les taureaux que le plus fameux picador. Son oncle ne tournait jamais la langue dans sa bouche avant de dire son mot. À peine eut-il aperçu sa mine si peu attrayante et son air embarrassé qu'il s'écria « Paul, mon enfant, rassure-toi, nul n'a été damné pour cause de laideur. » S'il entendait parler de son teint si brun, il lui disait dans son langage familier Ne t'attriste pas, le brun est une nuance qui ne déteint pas. Plus elle est foncée, plus elle est solide. Si son neveu faisait quelques gaucheries. Paul, s'écriait-il, avec les loups on apprend à hurler. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Paul était né dans une ferme au milieu des bois. Enfin, pour mettre le dernier cachet à ses jugements sur son neveu, Don Martin les résumait ainsi. Paul, personne n'est intrépide comme toi, mais tu abuses de la permission d'être laid. Tu n'as pas ton pareil en bonté, mais tu ne mérites pas la palme de l'intelligence. La maison patrimoniale de Don Martin de Guevara était une de ces constructions pour lesquelles on n'a épargné ni le terrain, ni les matériaux, ni l'argent, mais dans lesquelles on a oublié le confortable et l'élégance. Une énorme cour carrelée, des salons où l'on aurait pu faire des courses de chevaux, des chambres grandes, carrées et nues, des fenêtres trop chargées de fer, pas assez garnies de vitres, et un colossal balcon au-dessus d'une immense porte, surmontée de l'écusson gigantesque aux armoiries de la famille, telle était la demeure de ces nobles hidalgos. Ils habitaient ordinairement le rez-de-chaussée, abandonnant le premier étage à la solitude et au silence, avec ses meubles surannés aux formes excentriques, ses vieux et beaux lustres et ses tableaux de maîtres échappés à la convoitise de l'étranger. Du reste, point de jardin, car pour Don Martin, comme pour ses ancêtres, tout l'agrément de leur résidence consistait dans le mouvement, la vie et l'animation de leur immense exploitation rurale. Tout cela n'empêchait pas cette maison d'être la première de la contrée et d'avoir l'honneur de recevoir les rois à l'occasion. Ainsi, du vivant de Don Martin, Charles IV, les princesses de Bragance, épouses du monarque et de l'infant son frère, et le roi Ferdinand VII avaient successivement logé chez lui. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, selon l'usage des maisons honorées par la présence du roi, il n'avait pas fait mettre une chaîne au-dessus de la porte, il disait avec sa franchise habituelle « Les vieux cabarets n'ont pas besoin d'enseigne. » Un jour, Don Martin dit à son neveu « Paul, notre jeune veuve m'annonce son arrivée prochaine. Il me semble que tu devrais aller la chercher en voiture. » Paul était bon, complaisant et plein de respect pour son vieil oncle, mais il avait assez de tact pour comprendre tout ce qui lui manquait sous le rapport de l'élégance et des manières. Aussi frémit-il à la seule proposition de Don Martin. « Mon oncle, lui dit-il, vous savez bien que je ne la connais pas. »« Ni moi non plus, reprit Don Martin. » Ce qui, si j'étais jeune, ne m'empêcherait pas de l'aller chercher, la tête en bas s'il le fallait. Comment, tu n'as pas peur d'un taureau et tu tremblerais devant une jolie femme? Fi donc! De grâce, mon oncle, veuillez m'excuser. Soit, mais tant pis pour toi, Miguel ira la chercher. Et, au fait, son franc-parler l'amusera davantage en route que ta taciturnité, car il faudrait souvent un tire-bouchon pour t'arracher une parole. Clémencia, dont le pâle visage portait encore les traces des souffrances occasionnées par tant de catastrophes réitérées, arriva quelques jours après. En descendant de l'ancien véhicule tiré par 4 mules superbes qui étaient venues la chercher à Séville, elle se sentit profondément émue et alla se jeter en sanglotant dans les bras de sa belle-mère. Madame de Guevara, dans sa sévérité peu expansive, ne comprit pas cette démonstration d'une grande douleur. Aussi se contenta-t-elle de lui dire avec calme « Tu n'as plus de quoi t'affliger. Mieux vaut prier Dieu pour ceux qu'il appelle à lui que de protester contre ses arrêts par une douleur excessive. La perte d'un mari ne saurait être plus sensible que celle d'un fils. Je suis mère et pourtant je suis résignée. » « Allons, ma fille, lui dit son beau-père, il ne faut pas pleurer mais se soumettre à la volonté du Seigneur. Tu seras ici comme chez toi, tu pourras y commander en maîtresse. Mais songe que les vieillards n'aiment pas voir répandre des larmes autour d'eux. » Clémencia, comprenant que la vieillesse, par une sorte d'égoïsme, repoussait la douleur comme un ennemi, garda le silence et fit des efforts héroïques pour maîtriser son émotion. Elle se sentit alors pressée dans les bras d'une personne qui, laissant tomber une larme sur son front, lui dit « Pleure, ma fille, les larmes sont un privilège de la jeunesse, elles soulagent le cœur. Tu trouveras auprès de nous la tendre pitié, la douce affection, qui t'aideront à en tarir la source. » C'était le bon abbé qui, d'un accent ému, venait de prononcer ces paroles.